Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Idowani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Législative 2020 et loi sur le quota des 30%, quelles perspectives pour les femmes dans les régions notamment? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités sont Seyma Issa Maïga, membre du parti Rassemblement pour le Mali, RPM. Elle est au téléphone depuis Gao. Djuka Traoré Keïta, membre de la section URD en commune 3 du district de Bamako, et Mariam Diallo Dramé, présidente de l'association Femmes Leadership et Développement Durable à FLED. Je suis Mouhamadou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Je commence à vous souhaiter d'abord bonne journée de la radio. Aujourd'hui, 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. Nous l'avons célébrée et nous vous proposons ce soir un débat sur les élections. Le premier tour des élections législatives se tiendra le 29 mars prochain. Le second tour est prévu pour le 19 avril 2020. Le dépôt des candidatures devrait prendre fin ce jeudi 13 février à minuit. Déjà, il y a des partis politiques qui demandent le report de cette élection, mais aujourd'hui, nous allons parler de la participation des femmes. Combien de femmes députées seront élues sur les 147 à l'Assemblée nationale? Quelles seront les perspectives pour les femmes dans les régions? Ce débat en partenariat avec Studio Tamani et le programme d'engagement civique financé par l'USAID. À vous d'abord, Djuka Traoré Keïta. Depuis la première législature, il y a eu 63 femmes qui ont siégé à l'Assemblée nationale du Mali. Cette année 2020, pensez-vous que ça va changer?
Merci beaucoup, Mahmoudou, déjà pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur les perspectives pour l'élection législative à venir. Je suis sûre que les données vont changer et ça va aller dans le bon sens aussi. Ne serait-ce que si on arrivait à appliquer effectivement la loi 052 du 15 décembre 2015, ça va changer, les normes vont augmenter. Je suis sûre de ça.
Partagez-vous ce même avis, vous qui êtes de la société civile?
Oui, je pense que la loi va apporter un changement. Parce que ce que dit la loi, c'est que toutes les listes qui présenteront au plus de 70% d'un des deux sexes ne sera pas acceptée. Donc, pour ça, les partis sont obligés de respecter ce quota-là.
D'accord. Dans les régions, notamment à Gao, Seyma, est-ce que c'est la même perception? Est-ce que c'est ce même avis qui est partagé par les femmes?
Concernant la loi 052 du 18 décembre 2015, en tout cas, chez nous, la loi a été respectée au communal, a été respectée strictement au communal, et j'espère que cette fois-ci aussi, et c'est la même chose, parce que ça dépend des préfets. Vous savez, après les élections, quand nous sommes partis à Bamako, nous avons trouvé que dans beaucoup de circonscriptions du Sud, la loi n'a pas été respectée. Est-ce que, il faut se demander d'abord, est-ce que cette loi-là sera respectée sur toute l'étendue du territoire national, ou bien cette loi sera respectée seulement quelque part du Mali, là, l'objectif ne sera jamais atteint. Mais si les préfets sont stricts sur cette décision de respecter la loi 052 du 18 décembre 2015, j'espère que les objectifs seront atteints parce qu'il n'y aura pas de liste où il n'y a pas de femmes. Et ce n'est pas seulement les femmes. La loi là est venue pas seulement pour les femmes, et aussi pour les hommes, parce que c'est une loi qui est venue pour promouvoir la promotion du genre. Et quand on parle de la promotion du genre, c'est les deux sexes. On dit deux. Chaque fois qu'il y a trois candidats, il faut obligatoirement que les deux sexes soient représentés. Ça peut être deux femmes, un homme, comme ça peut être deux hommes et une femme. Mais deux femmes, un homme, là, ça n'a jamais été fait, en tout cas depuis que la loi a été votée. En tout cas, nous, on ne l'a pas vu ici. Mais quand même, quand il y a trois, le troisième, quand même, sera une femme, ici à Gao. Moi, je parle de la région de Gao. Ça, quand même, c'est respecté. Mais dire de prendre deux femmes et un homme, non. Ça, quand même, jusqu'à présent, on ne l'a pas vu d'abord.
D'accord. Jamais deux femmes et un homme, elle vient de le dire, on ne l'a pas vu d'abord. Alors, est-ce que les partis politiques, notamment, font des listes avec des femmes parce qu'ils ont besoin des femmes ou parce que les femmes ont droit à cela ou est-ce que c'est juste pour appliquer cette loi?
Bon, en toute honnêteté, je vais vous dire que c'est cette loi qui va les pousser, en fait, les obliger à mettre des femmes forcément sur leur liste. Sinon, jusque-là, nous avions vu beaucoup de listes quand c'est trois personnes ou on a trois hommes. Même à CAI, par exemple, on a sept hommes. Donc, cette loi va obliger. Et en fait, quand elle dit que ce n'est pas pour les femmes, elle a parfaitement raison. Mais ça va favoriser les femmes parce que ce sont les hommes qui sont majoritaires. Donc, comme elle l'a dit, le problème d'avoir trois femmes sur une liste ne se pose pas jusqu'à aujourd'hui. Le problème qu'on a, c'est que nous avions toujours trois hommes. Donc, grâce à la loi, maintenant, nous aurons forcément une femme parmi les trois. Et donc, ça va respecter les 30% de genre et équilibrer davantage notre Assemblée nationale.
Mais les partis politiques qui sont créés pour le peuple malien, qui regroupent hommes, femmes, enfants, vieux et tout le monde, doivent-ils être obligés à prendre en compte les besoins des femmes?
Ils sont obligés parce que c'est eux qui vont devenir des décideurs, être à l'Assemblée nationale.
Mais doivent-ils être obligés? Est-ce que ça ne devrait pas rentrer dans la logique des choses?
C'est la logique des choses, mais comme vous l'avez dit, du début à aujourd'hui, nous n'avons eu que 63 femmes. Donc si la logique suffisait, parce que vous m'excuserez, ce n'est pas seulement une question de logique, c'est une question de pouvoir, c'est une question d'influence, donc les places sont chères. Donc si vous demandez aux hommes, ah, s'il vous plaît, laissez la place aux femmes, personne ne va laisser son siège de député juste pour faire plaisir à une femme ou juste pour dans un souci d'équité. Donc il faut des mesures discriminatoires. Et le rôle des mesures discriminatoires, c'est pas pour favoriser la médiocrité, c'est pour un certain équilibre. Parce que c'est vraiment antidémocratique d'avoir une Assemblée nationale où sur 147 députés, on a 13 ou 14 femmes, soit 10%. Donc ça, ce n'est pas démocratique. Et le problème qu'on a avec ça, lorsqu'on doit voter des lois, la loi des finances par exemple, où on sait qu'il y a un budget vraiment très peu élevé accordé aux femmes, s'il y avait plus de femmes à l'Assemblée, elles auraient poussé dans le sens contraire. Ou encore, quand on a cette loi sur les violences basées sur le genre qui tarde à être votée, si nous avions plus de femmes, c'est-à-dire que les femmes sont mieux placées pour porter les problèmes des femmes. Les hommes, jusque-là, ils l'ont fait, mais ils ne peuvent pas le faire de la même manière que les femmes. Donc, il est important dans une société démocratique que ce soit et les hommes et les femmes qui soient ensemble dans la prise de décision et pas seulement les hommes. Mais le problème dans les partis politiques aussi, c'est la représentativité des femmes au sein des partis et surtout dans les organes, on va dire dans les bureaux exécutifs et autres. Parce que le problème, au moment de choisir les femmes, on les met dans les commissions d'organisation, on les met pas dans les postes importants. Et souvent, quand on demande aux femmes d'aller dans les partis politiques, je pense qu'elle pourra témoigner, c'est très contraignant pour une femme. Il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup d'activités. Donc, pour les femmes, c'est plus difficile de militer. Ce qui fait que, déjà, à la base, il y a moins de femmes dans les partis politiques. Parce que quand il faut mettre une femme sur la liste, ce n'est pas une femme lambda qu'on va choisir. On choisit dans le parti. Donc, lorsqu'il faut choisir, qui choisit?
Ça, c'est là que, quand il s'agit des partis politiques, voilà. Mais les femmes indépendantes peuvent également...
Elles peuvent être indépendantes, elles peuvent faire des listes indépendantes. Mais lorsqu'on doit choisir au sein du parti, on choisit au sein du parti. Donc, j'encourage les femmes aussi à militer au sein des partis.
L'application de cette loi, comment les discussions se passent dans les différents partis politiques, puisque vous êtes membre d'un parti?
Bon, pour les partis politiques, ce n'est pas un problème. Comme elle l'a dit, on est obligé d'appliquer la loi. On n'a pas le choix. Si tu n'appliques pas la loi, sauf si tu tombes sur un préfet qui n'a pas connaissance de la loi, sinon ta liste va être rejetée. Et personne, aucun parti ne voudra voir sa liste rejetée parce qu'il n'a pas mis les femmes sur sa liste. Par ailleurs, pour ce qu'elle a dit, c'est le fonctionnement même des partis politiques qui ne favorise pas l'ascension des femmes dans les partis politiques, puisque les partis politiques fonctionnent de telle sorte que les femmes sont regroupées entre elles, les jeunes sont entre elles et il y a le bureau exécutif. Et c'est dans le bureau exécutif où toutes les grandes décisions se prennent pour les partis. Donc si toi tu n'es pas là et dans les bureaux exécutifs, les femmes ne sont représentées que par la présidente, en cas d'empêchement, son adjointe ou la vice-présidente viendra représenter toute la section des femmes. Donc ce qui fait qu'elles ne sont pas là quand il le faut. Donc c'est pas possible, on peut pas prendre des décisions à la place d'une personne. Nous les femmes, on a l'habitude, c'est vrai que je suis du bord politique, mais je milite avec elles dans la société civile aussi. On a l'habitude de le dire. Toutes les décisions qu'on prenne pour moi, sans moi, ce qui c'est contre moi. Et moi, je voudrais que toutes les femmes se mettent d'accord sur une chose, que tu sois du bord politique ou non. L'objectif, c'est que les femmes arrivent à émerger, que leur leadership puisse être reconnu par tout le monde et qu'elles puissent pouvoir, comment je vais dire, exercer cette leadership-là comme il le faut pour le bien de la démocratie malienne.
Les hommes se sentent menacés par les femmes.
Non, c'est pas que ça. On n'est même pas discriminé. C'est qu'on n'est pas là, c'est tout. Parce que le jeu politique, la politique, c'est une arène. Il faut avoir des stratégies, il faut être préparé, il faut avoir des objectifs, il faut te battre pour avoir la place qu'il le faut. Et nous, la plupart du temps, quand tu es marié, c'est un handicap. En fait, parce que toi, tu as plus de charges que ton ami garçon qui a le même âge que toi. Lui, il a le temps d'aller à toutes les activités. Un bon militant se reconnaît. Parce que dans le choix de la candidate ou du candidat, il y a des critères. Et parmi les critères, tu vas avoir l'argent, tu vas avoir le militantisme, tu vas avoir l'activisme, tout ce que tu fais dans le parti. Et les femmes, la plupart du temps, elles ne sont pas là. Parce que dès que tu te maries, tu vas avoir des enfants, tu n'es pas là. Quand tu es enceinte, tu es hors jeu. Tu accouches, tu es hors jeu. Ta belle-mère est malade, tu es hors jeu. Tout ça, c'est pour ça que je disais à Mariam avant de commencer le débat que c'est les femmes qui doivent se mettre en perspective de la candidature. Parce que c'est un processus. C'est à toi-même de mettre comme objectif que je vais être candidate à 2020. Donc, tu as 5 ans pour te préparer en conséquence. Et ça commence dans le foyer, dans la famille. C'est ta famille qui est tes premiers électeurs. C'est ton mari qui est ton premier électeur et ta belle famille. Il y a tout ça qui entre en jeu, ce qui fait que les femmes sont trop souvent mises à la marge. Bon, je ne sais pas s'ils font exprès ou c'est la logique qui fait qu'on est tout le temps à la marge des choses.
D'accord. Seyma, vous êtes posé une question. Sera-t-elle respectée partout au Mali, cette loi? Sur Facebook, il y a sur la page Facebook de Studio Tamani, Dibi Raoul Dansogo qui dit qu'au Mali, aucune loi n'est respectée. C'est ce qui nous a conduit dans cette situation au Mali. Alors, est-ce que vous pensez que cette loi va véritablement être appliquée?
Je dis au communal, ça n'a pas été respecté. La loi n'a pas été respectée partout au Mali. Chez nous, à Gao, ça a été très bien respecté, strictement respecté par nos autorités compétentes. Parce que le préfet a écrit à tous les partis politiques pour leur dire chaque liste qui ne respecte pas la loi sera rejetée. Donc, obligatoirement, les partis politiques ont respecté cette loi. Et ça nous a conduit à 100 et quelques... Dans la région, ça nous a conduit à 100 et quelques conseillères municipales qui n'a jamais été fait. Donc, je vais vous dire, le Mali, effectivement, vote des lois, mais ce n'est pas voter la loi qui est le problème, mais l'application stricte de cette loi qui est l'handicap, qui est le problème. Donc, je vais vous dire, même cette fois-ci, si l'État ne prend pas les dispositions, si le gouvernement ne prend pas les dispositions strictes pour respecter cette loi, wallahi, ça reviendra à la même chose. Vous savez, les partis politiques connaissent très bien les femmes, connaissent très bien la valeur des femmes, connaissent très bien le point de frappe des femmes, connaissent très bien leur mobilisation. Et au moment des élections, quand il y a les élections, ce sont les femmes qui sont là, ce sont les jeunes qui sont là.
Alors, mais dans ce cas, pourquoi leur ascension pose problème aujourd'hui, même au sein des partis politiques?
Mais malheureusement, quand on doit faire une liste, les femmes sont toujours en complément d'effectif.
Pourquoi?
Le complément d'effectif, là, c'est ce que la loi la veut enlever. C'est ce que la loi la veut faire quitter. Mais jusqu'à présent, si on ne respecte pas strictement la loi, ça va être la même chose comme les années précédentes.
Alors, Madame Seyma, vous dites que les partis politiques connaissent la valeur, l'importance des femmes. Alors, pourquoi ces femmes, leur ascension pose problème, comme le soulignait tout de suite Madame Mariam Diallo?
Je n'ai pas compris la question.
Vous dites que les partis politiques connaissent la valeur, l'importance des femmes au sein de ces différentes organisations. Mariam Diallo disait tout de suite que l'ascension des femmes, même au sein des partis politiques, pose problème. Pourquoi cela, selon vous?
L'ascension des femmes?
Oui.
Est-ce que que les femmes sont abstinentes. Non.
Oui, justement, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que l'ascension des femmes pose problème. Et vous, vous dites que l'importance, la valeur des femmes est reconnue dans les partis politiques aujourd'hui au Mali. Donc, je pose la question, pourquoi, si leur importance et leur valeur sont reconnues dans, au sein des partis politiques, pourquoi leur ascension au sein de ces mêmes partis politiques pose problème ?
Ça pose problème parce que vous m'excusez du terme, nos hommes sont des gourmands. Ils sont des gourmands. Ils sont des dictateurs, ils ne veulent jamais quitter, ils ne veulent jamais céder. Nous, on n'a jamais demandé de nous laisser la place. On n'a jamais demandé...
Excusez-moi d'insister, vous dites bien que ces hommes responsables des partis politiques qui veulent gérer un pays démocratique sont dictateurs.
On parle politique, donc on parle toujours des partis politiques, des hommes politiques qui sont dans les partis. Des hommes politiques qui sont dans les partis. Moi, j'ai 30 ans de militantisme dans les partis politiques. Je sais de quoi je parle. 30 ans, plus de 30, depuis 91, ADEMA, APSI, jusqu'à Association ADEMA, jusqu'aujourd'hui, je suis dans les partis politiques. Je sais de quoi je parle.
D'accord, je donne la parole à Mariam Diallo. Vous aurez le micro tout à l'heure. Mariam Diallo, comment des hommes dictateurs veulent diriger un pays démocratique? Est-ce possible?
Mais je vais juste vous donner un exemple. Je veux que vous regardiez les trois plus grands partis politiques au Mali et que vous me dites lequel a changé de président depuis les 20 dernières années. C'est les mêmes présidents de parti. Vous comparez ça à d'autres pays, il y a alternance. Il y a l'alternance. Déjà, on veut qu'il y ait l'alternance dans nos élections, mais quand tu regardes au sein de nos partis politiques, il n'y a pas d'alternance. Celui qui a fondé le parti, il est président du parti à vie.
Est-ce qu'il y a même des femmes présidentes de
parti
politique?
Justement. Donc, quand tu regardes le paysage politique malien aujourd'hui, je crois qu'il y a 3 ou 4 femmes qui dirigent des partis politiques, mais ce n'est pas des partis qui ont une grande assise au niveau national. Mais quand tu regardes les plus grands partis sont dirigés par des hommes, et des hommes qui sont les présidents depuis la création. Autant eux, ils sont présidents. Tu vas voir que dans le bureau exécutif, ça bouge très peu. Donc, comme elle l'a dit, donc les femmes, et le problème des femmes, c'est qu'on va aller les maintenir dans le bureau des femmes. Les jeunes, on va les maintenir dans le bureau des jeunes, avec un représentant au bureau exécutif. Or, tout se décide au bureau exécutif. Comment voulez-vous que les femmes connaissent une ascension? C'est pas possible. Or, vous regarderez dans d'autres partis, en France par exemple, au Parti Socialiste, les Ségolène Royal, tout ça. Il y a les Martine Aubry, voilà des femmes qui sont des femmes politiques et qui sont au devant de la scène politique. Mais ça, ce qui favorise ça, c'est qu'il y a toujours renouvellement du bureau et les femmes se positionnent pour avoir les véritables postes de leadership. Mais le corollaire à ça, c'est quoi? C'est que les femmes qui sont intellectuelles, qui ont un certain niveau intellectuel, ne militent pas au sein des partis politiques. Il y en a très peu. Qui militent dans les partis politiques en tant que femmes, ce sont les femmes qui sont très braves, honnêtement, parce que c'est elles qui font tout le travail de terrain. C'est elles qui font la mobilisation, c'est elles qui font l'organisation. Mais ces femmes-là, en termes d'apport intellectuel et de positionnement, ne peuvent pas avoir ces stratégies-là pour aller accéder à des postes de leadership dans le bureau exécutif. Maintenant, les femmes intellectuelles qui doivent faire ce travail sont absentes des partis. Donc moi, la manière sur le long terme de changer la donne, c'est que les femmes d'un certain niveau militent au sein des partis et gravissent, afin qu'elles gravissent en fait les échelons pour arriver au sommet dans le bureau exécutif, et que les présidents des partis aussi favorisent l'alternance au sein des partis.
Diouka Traoré, est-ce que vous êtes d'accord que les femmes subissent une dictature au sein des partis politiques?
Ah bah bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Ne serait-ce que la structuration, ça défavorise les femmes, Bon, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est une dictature. C'est ce qu'elle a dit, en fait. C'est nous, les femmes, qui n'arrivent pas à nous positionner stratégiquement pour avoir ces postes-là.
Pourquoi? Est-ce que c'est parce que les femmes ne sont pas bien préparées? Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas de bonne stratégie?
Non. Ça qui, c'est des objectifs. Chacun a un objectif. Nous avons des attentes. Ça dépend des attentes de chacune d'entre nous. Tu vas voir que même quand tu vas proposer ces postes dont elle parle à des femmes, elles vont refuser. Parce que en plus d'être militante et en plus des activités des partis politiques, la femme a d'autres choses à faire qui n'est pas ça. Et la plupart du temps, la plupart des présidents, les leaders des partis politiques, c'est des retraités. Ils ont le temps, ils sont à la retraite, donc tout leur temps est investi dans le travail du parti et tout ça. Et mais la bonne dame qui est là, qui doit s'occuper de sa famille, de ses enfants, de son mari et tout ça, doit en plus aussi fournir les mêmes efforts que ces leaders-là pour pouvoir être vus de la même manière.
Et avec ça nous handicap. Des réunions nocturnes qui sont
Bien sûr, même avant-hier, nous on était en réunion jusqu'à 5 heures du matin. Il n'y en a pas beaucoup qui puissent le faire. Quand tu regardes les femmes, il n'y en a pas beaucoup à 5 heures du matin.
Pourquoi les réunions vont jusqu'à 5 heures du matin? Est-ce que c'est parce que la journée ne suffit plus ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on cache?
Tu vas voir que les réunions sont programmées vers 17 heures à la descente. Et qui connaît les partis politiques et l'engouement que les élections amènent, il y a toujours des débords qui se battent pour avoir un poste et tout ça. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc on est obligé de rester jusqu'à des heures pas possibles. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès. Sinon, on peut prendre un jour férié pour faire tout ça. Un samedi, un dimanche, on commence de 8h jusqu'à 16h. Je suis sûr qu'on pourra entériner toute la question de la candidature. Mais ils ont pris l'habitude de le faire pour exclure les femmes. Mais comme elle l'a dit, c'est à nous. Tout au début de l'émission, c'est ce que j'ai dit. En fait, c'est les femmes qui doivent se mettre en perspective, dire que nous pouvons le faire. Toutes les femmes dont elle a fait cas, les Martine Aubry, les Ségolène, elles se sont sacrifiées. C'est pas quelque chose comme... Même la loi. La loi ne pourra pas changer la donne. Même les femmes intellectuelles qui sont dans la fonction publique et tout ça, elles sont minimes. Les cadres A ne font que 36,12%. Et les cadres B, c'est 16,32%. C'est les cadres B1 qui sont beaucoup. Et les cadres B1, on sait quel genre de tâches elles sont en train de faire dans les administrations publiques.
Et sur Facebook, il y a Souleymane Haïdara qui demande pourquoi les listes sur lesquelles il y a deux candidats ne répondent pas au genre, si c'est le cas.
Non, puisque la loi, dans son décret d'application 0909, n'a pas pris ça en compte. Tout ce que la loi a pris en compte, c'est que si c'est trois, un doit être de sexe différent. Pourquoi les gens disent que la loi 052 du 18 décembre 2015 est la loi des femmes? Parce que chez nous, c'est le genre féminin qui est discriminé par rapport au poste de nomination ou au poste électif. Donc les gens se sont... c'est cet aspect-là qu'on a pris en compte et on a dit c'est les femmes. Sinon, c'est pas que nous. Les hommes, c'est la loi genre. C'est 70% de l'un des deux sexes. Vous voyez, maintenant... Là, je salue les femmes de la société civile parce que elles ont pris de l'avance par rapport à la sensibilisation et à tout ce à l'appropriation de la loi 052. Même les élections législatives qui ont été reportées, je les ai vues, elles étaient sur le terrain pour sensibiliser les préfets. Puisque, ne vous étonnez pas, il y a des préfets qui n'ont pas connaissance des lois.
Donc, elles sont en train de jouer le rôle des partis politiques qui reçoivent l'aide aux partis politiques qui devraient sensibiliser la population. Mais c'est la société civile que vous saluez qui le fait.
Si, les partis le font. Mais vous voyez, dans les partis politiques, en fait... sont statués dans le tandem de « je suis de la majorité, tu as de l'opposition » et vous voyez ce que ça
guerre
fait.
De pouvoir.
Nous n'avons pas les mêmes idéologies, l'idéologie politique sont différentes, on ne peut pas être mélangé et tout ça là. Mais stratégiquement, c'est aux femmes et elles sont beaucoup dans la société civile qui sont en train de s'investir pour que la loi soit comprise par tout le monde et que tout le monde ait connaissance de cette loi-là. Après, nous verrons. Notamment pour le décret d'application, puisqu'il y a aussi des associations qui ne sont pas concernées par le décret d'application. Par exemple, les associations religieuses ne sont pas concernées. Mais pourquoi?
Les chefferies traditionnelles
et tout ça.
D'accord. Seyma, je vous pose la même question posée par Souleymane Haïdara. Pourquoi les listes sur lesquelles il y a deux candidats ne répondent pas au genre? Est-ce un handicap pour les femmes?
C'est ce que l'autre vient de dire tout de suite. Effectivement, c'est aussi un handicap. Chaque loi a ses avantages et ses inconvénients. La loi n'a pas tenu compte de cela. Et si c'était, c'est pourquoi nous avons demandé la parité. C'est pourquoi on s'est battu pour demander la parité. Wildas nous a amené jusqu'à Dakar pour aller nous espérer de l'expérience des femmes du Sénégal qui ont pu décrocher la parité. Tant que le Mali aussi ne décroche pas la parité, les femmes ne seront pas là. Parce que tu as vu là où il y a deux candidats, les deux candidats, on ne prend jamais une femme et un homme, ou bien deux femmes, jamais au grand jamais. Tous les deux sont des hommes. Il faut vérifier sur toutes les listes où il y a deux candidats seulement. Tu trouveras qu'il n'y a jamais de femmes sur ces listes-là. Donc ça, c'est vraiment un handicap qu'il faut corriger aussi.
D'accord. Et certains estiment qu'aujourd'hui, les femmes qui sont à Bamako ont plus de chances que les femmes qui sont dans les différentes régions au niveau local. Alors, quelles perspectives pour les femmes qui sont dans les différentes régions pour ces élections législatives?
Les femmes qui sont dans les régions, moi je ne suis pas d'accord, hein, parce que les femmes qui sont dans les régions aussi ne sont pas des femmes aveugles, vous m'excusez du terme, c'est des femmes battantes, c'est des femmes qui se battent nuit et jour, c'est des femmes qui sont là dans la politique, qui ont montré leur capacité, qui ont montré leur valeur, qui ont montré qu'elles sont là, et c'est des femmes courageuses, et surtout dans les régions du Nord, vous le savez plus que moi. Mais malheureusement, moi je vais dire que c'est les femmes qui ne se soutiennent pas, c'est ça le grand handicap des femmes. Nous-mêmes, nous ne soutiennent pas. Les femmes ne se soutiennent pas. Et ce que Mariam vient de dire, si tu veux en réunion, en conférence de section ou en conférence de sous-section, où il y a 67 participants, 67 membres délégués des sous-sections, tu trouveras qu'il y a seulement 3 femmes ou bien 6 femmes parmi les 67 ou bien parmi les 80. Qu'est-ce que 6 femmes peuvent débattre? Qu'est-ce que 6 femmes peuvent décrocher? Qu'est-ce que 6 femmes peuvent défendre entre 80 hommes? Je te repose la question.
Alors, c'est moi qui pose les questions, vous répondez, je ne pourrais pas répondre à des questions.
Mais moi aussi, je te repose cette question-là.
Oui, quand mais sauf que moi, je pose des questions.
Ma fille vient de le dire tout de suite. J'ai bien dit, en conférence de section, c'est les délégués de sous-section qui doivent venir en conférence de section, non? Et c'est les délégués qui viennent, parce que là aussi, la loi n'a pas fait cas de cela. Donc, ces délégués-là qui viennent, tu trouveras que sur 87 participants à la conférence de section qui doit faire le choix, qui doit faire le choix des candidats, tu trouveras que sur 87, tu trouveras qu'il n'y a que 3 femmes ou bien 6 femmes. Maintenant, c'est 3 femmes ou bien c'est 6 femmes. Parmi 87 hommes, qu'est-ce qu'elles peuvent défendre?
D'accord. Mariam Diallo, quelle perspective pour les femmes qui sont dans les régions, notamment les régions qui sont frappées par l'insécurité, comme au centre du Mali et au nord du pays?
Non, en fait, c'est le mode de scrutin règle ça. C'est-à-dire que quand les gens votent, ils votent pas pour une personne. C'est un scrutin uninominal ou plurinominal majoritaire. Donc, c'est la liste qui est votée. C'est pas la femme candidate. Donc ça règle ce problème. Donc dès lors que les femmes sont positionnées sur des listes, donc c'est les listes qui sont votées. Et je pense que l'insécurité, ça frappe et les hommes et les femmes. Tout simplement, dès que les femmes sont dans les partis et qu'elles sont sur ces listes-là, elles ont toutes les chances d'être élues. Et comme elle l'a dit, c'est vraiment les femmes qui font la mobilisation. Et les femmes, les hommes politiques, vous le diront, sont un électorat qui est stable, qui est stable et qui vote, qui se mobilise facilement. Ce que moi je déplore, comme elle l'a dit, c'est les femmes elles-mêmes. C'est-à-dire que vous verrez dans d'autres pays, quand vous allez voir des femmes cadres, quel que soit le secteur, que ce soit des entrepreneurs, des femmes politiques, des femmes dans l'administration, des femmes dans les banques, etc., des femmes d'un certain niveau, elles sont, on va dire, entre guillemets, elles doivent pousser la cause des femmes. Mais vous verrez des femmes qui sont opposées à cette loi. Je me dis que notre travail n'est pas terminé, nous devons sensibiliser aussi les femmes. Parce que pourquoi on fait les quotas? C'est pas pour promouvoir, parce qu'elles vont... Parce qu'en fait, les femmes qui sont arrivées à un certain niveau estiment que d'autres ne devraient pas être favorisées par des mesures et qu'elles doivent se battre. Mais en allant à des élections, je peux vous dire qu'elles vont se battre. Elles vont pas... Déjà, pour être choisies, ça veut dire qu'elles ont prouvé dans le parti. Ensuite, il faudra débourser de l'argent et aller battre campagne. Donc, c'est pas comme si ces femmes-là n'ont pas de mérite. Ça, c'est un. Deuxièmement, en fait, le quota, c'est une mesure discriminatoire temporaire pour réparer un déséquilibre. Parce que là, aujourd'hui, 14 femmes sur 147, c'est trop peu. Or, nous sommes dans une démocratie. On ne peut pas laisser les hommes à l'Assemblée décider de tout à la, pour tout un pays où il y a des hommes et des femmes, en étant que des hommes. Donc, on est obligé d'avoir des quotas pour rapidement, en fait. Le quota va permettre de changer rapidement. Vous allez voir qu'avec cette loi, on va dépasser les 10%. On va aller à 20-25%. Donc, ça, c'est important. Donc moi, j'invite vraiment les femmes qui sont cadres et les femmes de manière générale, quand elles sont à un certain niveau, qu'elles se donnent aussi pour mission de promouvoir en fait les femmes, quel que soit le secteur d'activité dans lequel elles sont. Parce que en tant que femme, comme elle l'a dit, on a plus de défis, on a plus de difficultés à travailler, on a plus de difficultés à être dans la... Parce que nous avons plusieurs tâches, nous avons plusieurs responsabilités. Et nous sommes en Afrique, nous avons les pesanteurs socioculturelles. Et je vais vous dire que certains vont nous opposer. Ah non, mais cette génération, c'est des assimilés, ils veulent se prendre pour les Martine Aubry, etc. Je vais leur dire non. Parce que notre référence, l'une de nos références, elles sont nombreuses, c'est Hawa Keïta. Et Hawa Keïta, vous n'allez pas me dire que à l'époque... Voilà, on n'était pas en 2020, mais Hawa Keïta, elle a fait la clandestinité, on l'a changé de poste plusieurs fois, elle a milité dans le parti jusqu'à être élue à l'Assemblée nationale. Et je peux vous dire qu'elle a subi plus de difficultés que plusieurs hommes aujourd'hui qu'on cite dans l'histoire du Mali, mais elle, on la cite moins. Donc ce n'est pas une question d'assimilation ou quoi que ce soit. Si nous avons accepté d'aller dans une démocratie, la voix de tout un chacun doit être entendue, dont celle des hommes et des femmes. Et donc, s'il faut prendre des mesures pour ça, les femmes, les hommes, tout le monde doit faire l'effort pour accompagner ça. Et je vais vous dire que cette loi va faire beaucoup de mal dans les partis. Parce que imaginez quelqu'un dans une section, je ne sais pas moi, à CAI ou ailleurs, qui est la personne qui finance beaucoup son parti, qui mobilise, qui se donne vraiment beaucoup. Mais à cause de la loi, cette personne ne pourra pas être sur la liste. Parce que son parti sera celui qui est forcé, par exemple, de mettre une femme. Donc, il y aura cette difficulté-là. Parce que malheureusement, il va falloir que quelqu'un cède sa place aux femmes. Et maintenant, ces femmes-là qui vont aller à l'Assemblée, j'ai un message pour elles. Nous, dans la société civile, on s'est battus corps et âme avec la ministre.
On va y revenir tout de suite avec le message
d'accord.
pour ces femmes. Madame Seyma estime que les femmes elles-mêmes ne se soutiennent pas. Est-ce que vous partagez son avis?
Non, mais je vais me porter un faux. Ça dépend de la perception. C'est pas que les femmes ne se soutiennent pas. C'est pas ça. Les hommes font pire que les femmes. Mais nous, comme nous sommes des êtres passionnés, nous, notre adversité, c'est voir. C'est ce qui fait que ça donne l'impression que les femmes ne se soutiennent pas. C'est pas ça. En fait, c'est de la concurrence. Hein? C'est de la concurrence. Et chacun joue sa partition pour être choisi. Et ça amène ce que ça amène. Moi, je suis pas contre ça. Quand on est dans l'adversité, il faut jouer de toutes ses forces, amener des stratégies pour pouvoir atteindre son objectif. C'est pour cela que j'ai dit que ce problème-là incombe aux femmes elles-mêmes. Par exemple, Mariam vient de dire que la loi va faire beaucoup de mal aux partis politiques parce qu'il y a la personne qui finance beaucoup les partis politiques. Ça amène la question du financement des partis politiques, le paiement des cotisations. Les femmes ne les payent pas. Il faut être... Non, mais c'est vrai. Parce qu'il faut aussi que... C'est pour ça que j'ai dit que c'est un processus. Tu te mets dans l'optique d'avoir les postes de responsabilité. Et pour ce faire, tu dois prendre les... Tu dois t'incomber des charges. Les cotisations mensuelles et tout ça, la statutaire, en plus les contributions pour l'organisation des activités. Elles ne sont pas là pour contribuer. Là, on va dire que les femmes ne sont pas autonomes financièrement et tout ça. Mais ça se prépare. Ça se prépare. on est dans les clubs services, on est dans les partis politiques. Là où il faut payer, quand tu es femme, c'est vrai que tu milites, hein, tu mobilises, il faut payer. Les gens vont te respecter. Tu vas voir qu'il y a des femmes qui n'ont même pas besoin de la liste. Il y a des hommes qui n'osent même pas s'opposer à certaines femmes. Même ici à Bamako, dans les partis politiques, il y a des femmes, quand elles disent qu'elles sont candidates à la paix, il n'y a pas d'opposition. Parce qu'elles ont montré leur force. Parce qu'en politique, il y a ça aussi. Hein. En plus d'avoir de l'argent, il faut avoir de la notoriété.
Certains estiment aussi que la langue française, le français qui est la langue officielle du pays, est un handicap et pour les hommes et pour les femmes, mais beaucoup plus pour les femmes aujourd'hui.
Bon, est-ce qu'on est en train de dépasser ça, hein? C'est des stéréotypes. Hein? Parce que...
Je suis obligée de réagir. Okay. Il y a des hommes analphabètes à l'Assemblée. Plein. Ce n'est pas un problème de femme. Je suis désolée. Ça vaut pour tout le monde.
C'est fini.
D'accord. Alors, comment renforcer la participation politique des femmes dans le processus électoral, Madame Seyma?
Hein?
Comment renforcer la participation des femmes dans le processus électoral au Mali?
Comment renforcer la participation des femmes?
Oui.
La loi 052 du 18 décembre 2015 est déjà une stratégie de renforcer la participation des femmes. Parce que vous le savez plus que moi, les élections passées, il n'y avait pas de femmes. Tu vas prendre une liste de 1 jusqu'à 39, de 1 jusqu'à 25, de 1 jusqu'à 36. Il n'y a aucune femme sur la liste. Mais aujourd'hui, Dieu merci, avec cette loi, au moins, il ne peut pas prendre trois sans une femme. Ça, c'est déjà une avancée. C'est vrai, la loi n'est pas venue seulement pour les femmes, comme l'autre l'a dit tout de suite, mais ça favorise plus les femmes que les hommes. Parce que c'est les femmes qui n'étaient pas là. Mais je vais vous dire que cette loi-là n'a pas été, ça a été vulgarisée, mais jusqu'à présent, pas à hauteur de souhait. Parce qu'il y a d'autres, jusqu'à présent, qui ne connaissent pas cette loi-là, qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Donc,
À qui la faute? Qui n'a pas joué son rôle dans cette sensibilisation?
Dans cette sensibilisation, c'est l'État.
Et les partis politiques?
C'est l'État. Non, j'arrive. J'arrive. La faute, c'est partout, mais j'arrive, je m'explique. C'est l'État qui a bien voulu voter cette loi pour promouvoir le genre, n'est-ce pas? Donc l'État doit prendre des dispositions par rapport à la sensibilisation. Les partenaires techniques et financiers doivent prendre des dispositions. Les organisations de la société civile doivent jouer leur rôle. Les partis politiques ne le feront jamais. Parce que les partis politiques, ce n'est pas à leur aventure. Les partis politiques, ce n'est pas à leur guerre. Les partis politiques ne le veulent même pas. Ça leur a été imposé. Parce que les partis politiques ne veulent jamais que les femmes arrivent. Les partis politiques utilisent seulement les femmes.
Alors, les partis politiques appartiennent-ils aux hommes?
Aux hommes, oui. Les autres l'ont dit tout de suite. Les autres l'ont dit plusieurs fois. Dans leur intervention, ils l'ont dit, ça appartient plus à... Il y a combien de femmes présidentes de partis politiques? Combien? Tu les comptes au bout des doigts, non? Au niveau national, régional et local, il n'y en a même pas.
D'accord, mais ce problème de sensibilisation, que les partis politiques... Merci, Madame Seyma, que les partis politiques ne jouent pas bien leur rôle alors qu'ils reçoivent l'aide aux partis politiques. Est-ce normal?
Bon, ça c'est la gestion interne des partis. Et comme je l'ai dit, honnêtement, il y a beaucoup de choses à revoir dans la charte des partis politiques et surtout dans la loi électorale. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'après, une fois à l'Assemblée, les députés ont la possibilité de changer d'appartenance politique pour faire les groupes parlementaires et tout ça. Donc il y a pas mal de choses encore dans nos textes qui persistent et qui ne sont pas, qui sont antidémocratiques, qui favorisent une certaine légèreté au sein de l'Assemblée nationale. Moi, je pense que promouvoir la loi 052 n'est pas vraiment en fait l'objectif. Aujourd'hui, les femmes doivent, comme elle l'a dit, faire des stratégies. Et les femmes doivent se donner une vision. dans 5 ans, dans 10 ans, de comment elles veulent être au Mali. Prendre la tête des partis politiques, être au sein d'un parti, mais aspirer à devenir numéro 1 ou numéro 2 dans ce parti. Et ça, ça ne peut pas arriver tant qu'on a certaines dispositions dans les textes au sein des partis et certaines pratiques. Mais c'est aux femmes de dénoncer ça. Les femmes dans les partis, nous, on ne peut pas faire ça. Qu'elles dénoncent les heures de réunion, par exemple. Qu'elles dénoncent le manque d'alternance. Il faut qu'elles se mettent ensemble. Et là aussi, il faut que les femmes aussi, d'un certain âge, d'un certain niveau, prennent sous leurs ailes des jeunes femmes. Ou des femmes qui sont moins expérimentées. Ça, je le déplore aussi. Vous verrez dans les partis, vous verrez que tel leader, on va dire que un tel, c'est son petit, etc. Vous verrez rarement qu'on dise d'une femme leader que telle est sa petite. Ça, je le déplore. Je pense que les femmes doivent faire un effort parce qu'elles ont l'expérience, elles savent tout ce qui se passe. Donc, elles doivent tirer, en fait, avec elles, d'autres jeunes femmes pour favoriser toujours l'émergence de plus de femmes, en fait, au niveau décisionnel au sein des partis. Une fois qu'elles ont ça, forcément, c'est elles qui seront nommées quand il faut nommer des gens à des postes de ministre ou autres. C'est elles qui vont être sur les listes des législatives ou des communales. Mais tant qu'elles sont repliées dans les bureaux de jeunes, les bureaux de femmes, l'organisation et la mobilisation, les décisions se prendront effectivement tard la nuit sans elle.
D'accord. Pourquoi vous ne dénoncez pas ces handicaps que vous avez soulignés, notamment les réunions tardives?
On les dénonce, hein. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas sur la place publique qu'on les fait. Sinon, on les dénonce. On n'est pas beaucoup. En fait, ça ne dérange pas beaucoup de femmes, puisque généralement, elles sont confinées à des positions qui ne les forcent pas à rester jusqu'à des heures tardives. Donc,
Ça leur suffit.
C'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème. C'est aux femmes de prendre conscience qu'elles peuvent faire plus que mobiliser. Elles constituent une force qui fait peur aux hommes politiques. Donc, ils n'ont pas intérêt à éveiller leur intérêt pour changer. En fait, c'est à elles de se prendre en charge, et eux aussi, de faire en sorte qu'elles puissent sortir de cette impasse-là. Parce que c'est ce que j'ai dit. Il y a un moment dans la société civile, il y a eu un poste où on dit que les femmes ne veulent pas être secrétaires générales des ministères et tout ça là. Un ministère nous a mis en demeure de lui trouver un secrétaire général femme. Mais dans tous les ministères, on n'a pas pu les trouver. Athées. Elles n'ont pas voulu. Parce que c'est un poste qui est très, très chargé. Il y a beaucoup de travail là-bas. Elles sont obligées de rester jusqu'à des heures tardives. Il y a beaucoup de travail et tout ça là. Il y a cet aspect-là aussi.
D'accord. Et c'est dans ce contexte également, je rappelle que le premier tour des élections législatives devrait se tenir le 29 mars prochain. Il y a des partis politiques qui demandent le report de ces élections. Il y a certains également qui demandent le prolongement de la date du dépôt des candidatures. Quel est votre avis sur ces questions?
Bon, en ce qui concerne notre parti, nous allons participer aux élections législatives. Et à ma connaissance, nous, on n'a pas demandé le report ni de rallonge des dates. Parce qu'il faut être unanime sur une chose. Il y a besoin de changement. Les députés qui sont là-bas, on a deux fois prorogé leur mandat. On ne peut plus. Maintenant, soit le président dissout l'Assemblée et gouverne par ordonnance, soit on va aux élections.
D'accord. Madame Seyma, vous, quel est votre avis sur ces deux questions?
Moi, je ne demande jamais de report. Les députés qui sont à l'Assemblée actuellement sont en train de faire deux mandats dans un seul mandat.
Donc vous pensez qu'il faut tenir ces élections?
Il faut tenir ces élections. Obligatoirement, il faut tenir ces élections. Pour être dans la légalité, il faut tenir ces élections.
Faut-il prolonger la date de dépôt des candidatures?
Le dépôt des candidatures, mais ça a été lancé depuis. Donc un parti qui de ce jour à jusqu'à présent n'a pas pu s'organiser pour faire sa conférence et choisir ses candidatures que ce parti, vous m'excusez du terme, n'est pas à la hauteur alors.
D'accord. Merci beaucoup, Madame Seyma. À vous, Madame Mariam Diallo Dramé. Vous vouliez passer un message aux femmes qui sont à l'Assemblée nationale?
Oui, aux femmes qui vont venir à l'Assemblée nationale, il ne faut pas qu'elles s'éloignent de nous, dans la société civile, et surtout des autres femmes dans les partis. Il faut que chaque femme qui a une position de leadership se donne aussi cette mission-là, en fait, de tirer d'autres femmes avec elle et surtout de promouvoir la cause des femmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lois qui sont en attente pour améliorer toujours la condition des femmes. Et aussi, dans tout ce qui va se discuter à l'Assemblée, le genre est transversal. Quel est toujours ce regard genre sur les différentes lois qui vont passer, quel que soit le non, quel que non, encore une fois, attention, quel que soit le secteur, le genre est transversal.
D'accord, merci beaucoup. Mariam Diallo Dramé, vous êtes présidente de l'association Femmes Leadership et Développement Durable à Fled. Merci Djuka Traoré Keïta, membre de la section URD en commune 3 du district de Bamako, et madame Seyma Issa Maïga, membre du parti RPM, qui était au téléphone depuis Gao. Je suis Mohamedou Touré à la régie vidéo et audio, Salim Djouara et Mamadou Ouattara. Ce débat est en partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique PEC financé par l'USAID. On se retrouve demain pour un autre numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halou Dmouni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.